Radio Spirale. En avril 2011, l'Académie des lettres du Québec recevait des invités de partout lors de la 39e rencontre québécoise internationale des écrivains qui avait pour thème Eros et ses fictions. Une soirée de lecture avait lieu dans le cadre de cet événement que nous vous présentons ici. Nous entendrons ainsi dans l'ordre les poètes Denise Brassard, Pedro Serrano, André Lasselle, Jean-Bernard Vuillem, Alexandra Fixmer, Biel Mesquida Amengal, Nadine El-Taïf, Titi Folieri, Daniel Fournier, Hugh Hazelton et Marie-Étienne.
Bonsoir, je suis Denise Deshôtels et au nom des membres du conseil du comité de direction de la 39e rencontre québécoise internationale des écrivains, Nicole Brossard, Hélène Dorion, Naïm Catan, Pierre Neveu et Louise Dupré, directrice de l'événement. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce lieu où, depuis une bonne vingtaine d'années, de nombreux écrivains et écrivaines se sont fait entendre. Un lieu habité, hanté, pourrait-on dire, par des voix, des pensées, des imaginaires, mais également des urgences, des doutes, des désirs. Désir. Ce mot nous ramène vers la rencontre de cette année qui a pour titre « Eros et ses fictions ». C'est en effet le thème des communications, des échanges et des réflexions que vous pourrez entendre bientôt sur Radio Spirale, comme vous pourrez y réentendre cette lecture d'ailleurs. L'œuvre projetée sur le mur du fond et que l'on retrouve sur le livret et l'affichette de la rencontre est une eau forte de l'artiste Ludmila Armata, intitulé « Detachment ». Et on la perdra en cours de route parce qu'on a un petit problème technique, alors regardez-la bien pendant une vingtaine de minutes. Avant de donner la parole à notre première lectrice, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier de leur générosité le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de la ville de Montréal. Lieu de naissance de notre première invitée, Chicoutimi. Lieu de vie, Montréal. Dans La parole plurielle, un texte extrait de l'épreuve de la distance, son dernier recueil publié aux éditions du Norroy en 2010, Denise Brassard parle ainsi d'écriture. Le poème s'écrit dans la distance, dit-elle. Il est cette pensée qui prend le risque de la parole, tendue entre douleur et joie, gravité et légèreté. Distance à la faveur de laquelle la rumeur et le brouhaha se resserrent. Alors, de la multitude s'élève une seule voix dont je m'éprends, qui me déprend de moi-même et me jetant dans l'anonymat, me parle mieux que moi. C'est la voix du poème. Et si alors parler, ce n'est plus voir, comme le dit Blanchot, c'est peut-être entendre et s'entendre sur le sens des mots, non pas tant leur signification que le sens de leur tension, leur avancée patiente dans la forêt d'échos de la pensée en acte, vers la présence sans objet qu'est le poème. Denise Brassard lira ce soir un extrait de « Ombre des prises » tiré du même recueil « L'épreuve de la distance ». Denise Brassard.
Merci Denise, bonsoir. Tes bras de rivière calment la vastitude. Au delta de nos corps, les rives s'accordent. La lune emprunte aux rêves l'étoffe de la joie. Je suis celle qui survit au plaisir. Entre mes doigts, ta douleur à la trempe du ciel. Je suis la piste du loup semée de pluie. Enfant de l'automne, j'ai pour toi la fragilité des mélèzes. Sur les sentiers qu'embaume la douceur d'octobre, je glane tes mots, ta voix, plus nue que la soif. Je n'ai plus de chemin que le souffle. Le temps laissé aux âmes tranquille quand nos gestes se nouent, venus d'une improbable verdeur. Ma peau s'irise, mon âme prend racine dans la lumière que tu jettes autour. J'avise les sommets, je peux gravir, je vais entre tes mains déposer ma peine. Je saurai, avant l'aube, tracer les valles ou disparaître à la face des hommes. Quand les voiles déroulent leur infini désert et nous livrent à l'impuissance d'être trop longtemps là où ça crie en nous. La bataille aligne ses détours. Sous les yeux fatigués des mirages, que de voyages, de fabuleux portages pour traverser le soir endeuillé du désir, le corps de longue haleine aller jusqu'au sommeil. Je m'éveille près de toi. À l'oreille, le jour sait mieux que dire le chemin parcouru à parcourir. Le jour, roulé dans ses limbes, rejoue l'adolescence. L'écume en plein soleil tambourine. Le cœur ne répond plus de rien. Je suis, je ne suis pas. L'automne, loin devant moi, m'enjoint de me rendre à la beauté de l'or qui tranche dans le vif du plaisir, à ce qui monte du très loin, de plus loin que l'errance. Je cueille l'ambre. Sans perdre pied, je peux te regarder droit dans les yeux. Mon sexe est pris du souffle, je suis l'offrande, l'affût, la foi. Dans ton sommeil, j'ai vu ta mort. C'est une enfant, je la tiens dans mon ventre. Une girouette, je suis le vent. Le corps levé dans un tronc d'arbre, genoux pliés dans la blessure, sa voix loge une flèche, une éclaircie, un après-midi d'octobre, juste avant, bien avant ma naissance. Un jet d'un cri me tire de ma rêverie. Entre ses ailes, l'hiver ne viendra pas. Tant que ce pont s'élèvera, à la fenêtre, le jour aura raison de la nuit. Je suis cette volée boréale. Sous tes doigts, je touche le bleu. Je crois au déraillement du pire, aux enfances tachées d'or, aux tristesses comme du pain rompu. Personne en moi n'était encore entré par cette sente. Animal, ton approche éclaire un lieu très nu, assez vaste pour accueillir une tribu. Entre mes cuisses, la terre s'ouvre, nous multiplie. Il y a cendre sous neige lorsqu'elle apaise le lac. L'enfant trouvé coupable de ciels en pagaille. Au bout du quai, le silence des canards en partance. Sur leurs traces, mes pas ne mènent nulle part qu'à ces îles enfouies sous le froid de l'oubli où ton sexe plonge, qui délie tout. Sens dessus-dessous, les cailloux remontent. Je les lance en l'air, attentive à l'écho de ta langue perdue en cette sente étroite où nos soupirs se mêlent d'absence, de méprise, de terreurs et de dieux, quand nos bras à l'unisson se referment sur une clairière vide d'espérance. C'est au lustral où le plaisir nous jette et sans fond. Je ne rapporte rien des profondeurs, rien qu'une ignorance avide de se perdre. Le jour me demande de ranimer le feu. Mes mains rougies creusent le sol pour déterrer la lune qui rappelle le loup à la sagesse du blanc. Dehors, la vérité se défait en flocons, tandis qu'en moi résonne ce qui en toi chancelle et me chavire. Entends-tu l'étrange respiration du monde sous l'étendard du froid. Ces glyphes de feu frayent en mon sein. Une soif tenace libère le poème des miroitements de la prière. Du battement des viscères, la neige retient l'écho. Entre nos flancs, baignés de mystère, le chant montre ses flots. Il est vaste le territoire que la neige abandonne. À ma dérive, ta bouche murmure. Tout ce blanc, c'est l'histoire à refaire, la fable à redire. Les êtres, venus en songe, baliser la peur et couvrir de lichen le sol fuyant où nos corps se réinventent soleil. Merci.
Bon. Oui. Bon, je vais lire ça en espagnol et commencer à ça. ¿En dónde está este desbarajuste de lenguas, esta suicida huida de palabras, este cangrejo ermitaño de mi historia? Ay, como si la música de un idioma me pudiera salvar, como si yo pudiera conjugarme, fluir furiosamente, como si yo pudiera soltarlo todo, desprenderse, desaparecer en una ciudad sin nombre y sin historia, huir como un salmón hacia su origen, desheredarme, desafanar al fin este trasiego, aprender allí a balbucear en la inocencia, en la ignorancia de los ecos. Alors, je vais lire de ce livre, que c'est Turba, qui est publié par Le Cormier, mais on ne peut pas le trouver ici, mais on m'a dit que pour le Festival de la Poésie en mai, il y aura des exemplaires. Ah, merci bien. Ok. Et je vais lire. C'est un livre fait de fragments, de choses que c'est accommodé comme on veut, non? Alors, je vais lire. Petit poème. Oh soleil, soleil, oh soleil, meurtri de l'âme, racine fuyante faite de veines éclatées et d'asphyxie. Ça, c'est un. Ça, c'est, le prochain, c'est un peu plus long. Et comme vous aurez voir, le paysage, c'est vous le reconnaîtrez. Fondant la neige, la solidité, l'amalgame dans les ongles et la retenue, la rue blanche, la lueur du jour fonde et froid, le froid fonde, l'air paix gelé, l'air luminosité recueillie, l'air espèce molle. La neige fonde et les rues tremblent. Flaques de sel et de boue, pas glissant, trempées. La neige fonde dans la main froide, l'odeur de bière, la candeur de bruyère, recueillement. La neige fonde et les vers surgissent en tempestif. Tout retourne ravement à sa poulpe ouverte. Tout suit la trace de reconversion. La neige fonde. Une vraie plaque, la neige fond et le monde tourne. Ses facettes timures, ses semelles tendues. La neige fonde et les roues redeviennent polychromes. Tout reprend sa place après le luxe. Reviennent l'air grave, la pelouse, la bicyclette. Les trottoirs heureux d'être trottoirs. Les palais mordus de continuer d'être. La neige fonde et on se regarde. Bras, boucles, couleurs, rêves, orages. Les pierres réchauffent la menthe, les amitiés, et mitouflées sous la couette, les chaussettes. À nouveau, le monde revient, ce monde. Le corps aussi a des limites. Proche de la lumière, proche, je dresse le moignon blanc du soleil. Et je reviens à l'ignorance. Et je vais lire un autre poème de ça. Je vais le lire en espagnol premièrement et après en français. De ese amor. Tocas la apariencia profunda de este cuerpo, la lentitud de su superficie fluorescente, su indolente entrega, y tienes allí su corazón y suerte como una flor abierta, que allí puliera su dejada insistencia, que allí luciera como si fuera imposible. Y ella desnuda se desenvuelve suave, se desenrosca, fluye, y en el alma no hay precipicio, sino una condensación del aire, su detención, un suspiro, el aliento y alivio de una pluma. Respirar es entonces internarse, un espacio detenido de la creación que allí se invade, permea, suda, la suavidad de una espina de marfil que se entierra, el mármol y las vetas rojizas, y la flor y la piel. ¿Por qué vas más abajo, más allá, más hacia su horizonte desplegado, más hacia el turbio suelo de humedad y de lino? ¿Por qué se dispersan tus sentidos como unas manos ávidas, como un viento, como si su solo discurrir fuera la formación de un alma, un nacimiento, el sedimento de la carnalidad y el sudor? ¿Quieres regresar a ese espacio y ese tiempo desde esta claridad? Dar en la lucidez del remolino y en la sed de los ojos, dar en la calma de una maduración aprendida, dar, ver y arriesgar en esa luz vertiginosa, como la displicencia o la granada. Bueno, c'est un poème, le motif de ces rencontres, c'est héros et c'est fiction, c'est un poème qui parle de ça. De cet amour. Tu touches la profonde apparence de ses corps, la lenteur de sa surface fluorescente, son indolent ton de soie, et tu as là son cœur, son sort comme une fleur ouverte, qui polirait son insistance paresseuse, qui brillerait là comme si c'était impossible. Et elle dévêtue ses défaits douces, se déroule, coule, et dans l'âme il n'y a pas de précipice mais une condensation de l'air, son arrêt, un soupir, le souffle, le soulagement d'une plume. Respirer est alors s'enfermer, un espace arrêté de la création qu'on embahit, transude, sous la douceur d'une épine d'ivoire qui s'enterre, les marbres et les vents rougeâtres de la fleur et la peau. Pourquoi vas-tu plus bas, plus loin, vers son horizon déployé, vers les sols troubles d'humidité et de fange? Pourquoi se dispersent tes sens comme des mains avides, comme un vent, comme si leur seul discours était la formation d'une âme, une naissance, les sédiments de la chair et de la sueur? Tu veux retrouver cet espace et cette âme depuis cette clarté, parvenir à la lucidité des tourbillons et de la soif des cieux, au calme d'une maturation appréhendée, donnée. Voir et risquer dans cette lumière vertigineuse, comme la froideur ou la grenade. Merci.
Né à Hawkesbury en Ontario, André Lasselle habite aujourd'hui à Ottawa. En réponse à ma question concernant son rapport à l'écriture, elle m'envoie ceci, qu'elle présente comme l'amorce d'une réflexion sur Eros et ses fictions. Au début de la vie, l'inconnu. À la fin de la vie, l'inconnu. Eros, c'est le désir de l'inconnu, et l'inconnu force l'invention. La vie dit « raconte-moi ». Et dès qu'il y a mot, il y a fiction. Qui a dit cela? Avant et après la vie, l'intact. Son lieu, la transcendance. Pendant la vie, l'interdit. Son lieu, l'immanence. Leurs axes se confondent, fondent des espaces inséparables. Appelle le poème. Ce qui importe, c'est le réel qui s'imprime en moi et qui, d'espérance, décline l'amour, fiction ou pas, avec Eros toujours. André Lasselle a choisi de lire de courts poèmes tirés de son recueil « Demain l'enfance », publié aux éditions du Vermillon en 2011. André.
Merci, Denise. Préhistoire. Si sa vérité n'est pas dans ce livre, où est-elle? Car tout se trouve dans une chambre d'enfance, l'âme en loque, et sur le lit, un amas de songes. Dans le jardin, en folie, clos, entend désaccorder l'amour étranger, sur la nappe une goutte de vin, comme un lieu n'a pas lieu, est un éclat. Dans le pur pays, les heures ne passent plus. Dans la nuit du désir, le pur pays n'existe pas. Maintenant qu'elle n'est personne, elle se tient compagnie, à pleine voix, et récite la comptine finale. Tailleuse de préhistoire, avant l'épopée, les chroniques, le récit, après l'anecdote de la vie, ici comme là-bas, il n'y a âme qui vive. Neige libre, noie ses traces, le vent scelle, le vent scie, elle ne trouve sa vérité. Or, un lieu se donne, se poursuit. Une histoire se donne, se lit. Ciel d'éclair au déluge pré-verbal, pousses entières dans le berceau, la main de la nature, l'histoire de nos vérités, rien à jamais, tout à nouveau. Je fus, nous fûmes, livres empilés, dépôts d'expérience, couches de mémoire, chimère de sable en été, en hiver, flocons noirs. Le sable des mots et la neige nous brûlent. Paroles puissantes ne suffoquent pas. Fracas. Une enfant enjambe l'air. Sa tempe se fend dans les miroirs de l'hiver. Elle entend le cri de l'iceberg, la lumière tremble, chez elle polaire. Puis, plus rien ne vacille, sous les lampes claires. Champ de neige piqué de croix, entre les pages, mots blanchis tremblent sans voix. Plus rien ne vieillit, plus rien ne meurt, vois au fond une porte bas. Croyance. L'amour l'habite, la quitte. Dans la vie le livre, dans le livre la vie. Quand j'étais enfant, j'étais. Demain étale le germe, l'amour à demeure. Avant-coureuse, sa parole écrite, à l'encre blanche, la désabrite. Or, cette grande rapailleuse, à découvert, partout me reçoit. Ici, au cœur, être là.
Jean-Bernard Vuillaine est né en Suisse, à Neuchâtel, et il vit aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds, l'une des plus hautes villes d'Europe, dit-il, située à 1000 mètres d'altitude. Jean-Bernard Vuillaine raconte qu'il s'est mis très jeune à écrire des livres qu'il aurait voulu lire plus tard, quand il serait grand. Mais les manuscrits se sont perdus, il ne se rappelle de rien. Il a repris la plume à un âge presque mûr pour écrire des livres qu'il aurait voulu lire quand il était enfant, petit. Cela n'a pas très bien marché, mais il a constamment progressé et s'est tout de même constitué une honnête bibliographie au fil des ans. Dans ses meilleurs moments, il parvient aujourd'hui à régresser jusqu'à l'âge mouvementé de l'adolescence. Il n'arrêtera probablement jamais d'écrire. Ce soir, il lira un extrait de « Une île au bout du doigt » paru aux éditions Zoé en 2007. Jean-Bernard.
Merci. Il y aura un changement de ton, je crois, parce que c'est pas...
On m'entend là.
C'est pas de la poésie, c'est un extrait de roman.
On m'entend.
Encore un peu. Ça va ?
Ouais, ok, merci.
C'est une incursion au 10 Downing Street.
Comme ça ?
Voilà, d'accord. C'est une incursion au 10 Downing Street en 1982, pendant la guerre des Falklands ou la guerre des Malouines. Une incursion dans le, ce que j'en rapporte est bien sûr imaginaire. C'est une incursion même dans l'intimité des époux Thatcher. Il y a deux passages, je dois dire que j'hésite à lire. Il y en a un qui est assez cru, et puis l'autre un peu moins. Et puis, il y a une espèce de fond de calvinisme en moi qui fait que j'arrive pas à lire le plus cru, j'en sais. À moins que vous me le demandiez, vraiment. Si vous... vous voulez le plus cru, quoi. Ouais, d'accord. Le cru. Alors, je me lance dans le cru. Merci, vous me permettez de franchir un pont. Des images de leur voyage de noces à Madère rôdaient dans son subconscient. Il n'avait qu'à fermer les yeux pour voir sa jeune épouse courir au bord d'une falaise à Funchal, une île paradisiaque, rien à voir avec les vents des Malouines. Et maintenant, elle ralentissait l'allure pour lui permettre de la rattraper. Elle n'avait pas encore jugé bon de s'éclaircir les cheveux. Maggie était une brune à la peau claire et ses petits yeux brillaient comme deux épingles dans un visage au modelé très doux qui semblait comme suspendu à un front plutôt imposant, toujours dégagé et surmonté d'une coiffure compliquée tendant à devenir toujours plus haute avec les années. Maggie s'était blondie avec un instinct très sûr, songeait-il pour la première fois, et plus sa chevelure devenait claire, plus son pouvoir et sa force de séduction grandissaient sur les Tories et sur le peuple. Plus la jeune femme ambitieuse cédait le pas à une femme de pouvoir, à une icône du libéralisme intransigeant. Elle portait souvent des chapeaux artistiquement disposés sur son abondante chevelure. Mais ce jour-là, ses cheveux bruns flottaient librement autour de son visage. Maggie était en congé, Maggie voulait vivre comme une femme. En ce moment, c'était sa seule ambition. Il l'avait enlacée et il s'était roulé dans l'herbe jusqu'au moment où elle avait saisi sa main, il l'avait dirigée avec autorité sous sa robe et lentement, fermement vers sa croupe. C'était la seule fois de toute leur vie commune qu'il l'avait surprise sans culotte sous sa jupe. Il est vrai que depuis cette lointaine époque, l'occasion ne s'était plus présentée. Plus elle blondissait et moins elle s'abandonnait. La politique l'avait dévorée, soustraite aux caresses, et depuis longtemps, M. Thatcher n'était réduit à de rares et brèves étreintes nocturnes. Pourquoi fallait-il que cette journée lui revienne en mémoire d'une manière à la fois exquise et douloureuse, quand le Premier ministre tenait dans ses mains le sort de plus de 300 marins louvoyant dans l'Atlantique Sud et sans doute inconscients que leur vie dépendait d'une femme dont la fermeté de caractère n'avait d'égal que la douceur de sa peau. Donizette Chose se versa un dernier gin, qu'il but d'un trait, enleva ses lunettes, tira le cordon de la lampe de chevet, puis se glissa entre les draps. Cette brève baignade dans leur passé, au fond d'un verre, l'avait revigorée. Était-ce la fièvre de Madère, la fièvre des Falklands? De Madère aux Falklands, il n'y avait qu'un pas jusqu'aux tendres fesses de la dame de fer. Sa main gauche glissa comme autrefois sous la chemise de nuit. Et puis l'autre, et elle s'avançait sans guide, s'enfonçait dans le souterrain du désir. Et maintenant les mains de Denis pétrissaient des 10 doigts, pinçaient, prenaient le commandement des opérations nuptiales. On entendit Margaret Thatcher gémir dans un demi-sommeil, et Denis poussait son avantage, s'aventurait vers le bas-ventre. Les jambes du premier ministre strient la pénombre d'éclairs blancs, ses cuisses s'ouvrent. « Fuck me, oh fuck me !» s'écrie la dame de fer. Denis se jette au centre de l'incendie, dans une confusion de draps, de cris et de soupirs. Cela dura longtemps, disons quelques minutes, peut-être un quart d'heure. Et puis elle protesta qu'elle voulait dormir, une protestation d'amante signifiant encore, mais Denis Zetsch avait donné toute sa mesure. Apaisé, il se contentait de caresser les seins de Margaret et demandait d'une voix très douce et très intime, comme il aurait dit « Je t'aime » et pour le Belgrano. « Ma décision est prise !» Il se mit à lui lécher le bout des seins, comme s'il voulait tirer la réponse du plus profond d'elle-même. Et puis, sa voix changea d'un coup, c'était de nouveau celle de la dame de fer et son corps aussi se raidit. « Malgré tout, dit-elle, il est plus intéressant d'avoir une guerre sur les bras que des dossiers ennuyeux comme l'environnement. » C'est une phrase réelle, celle-là. Elle se rendormit, laissant son mari sans réponse, un téton entre les lèvres.
Notre prochaine invitée, Alexandra Fixmer, est née à Luxembourgville, du pays du même nom, où elle vit et travaille actuellement. Dans Nidpool, un recueil publié en 2009 aux éditions Phi, en coédition avec les écrits des Forges, elle écrit « Du côté de l'oubli lentement, tout s'effacera sans que je sache ce qui est en train de s'effacer. Je me mettrai peut-être encore à courir derrière ces incertitudes. J'essaierai de les rattraper et, au moment de les saisir, je ne saurai plus si ces effacements-là sont bien les miens. Progresser dans l'oubli pour pouvoir laisser partir. » Alexandra Fixmer lira ce soir un extrait d'un texte encore inédit qui a pour titre « Vert blanc ». Alexandra.
Bonsoir. Guten Abend, comme on dit chez nous, de l'autre côté de la mer. Donc voici les bonnes feuilles d'un recueil à paraître bientôt, j'espère, qui va donc s'intituler « Vert blanc » et tout ça est parti d'un mot que j'ai rattrapé dans un atelier d'écriture que je fais avec mes élèves. Il y en a une qui avait proposé un texte « White noise » et c'était tellement beau. Et j'ai traficoté ça et j'en ai fait « Les verts blancs » que voici. « Il ne faut pas que l'air se troue ainsi. » Air blanc. Je veux dire, il ne faut pas que l'absence se mette déjà à propulser des rayons de ténèbres, comme si la vie n'était plus qu'un bulbe sucré et rose, comme le temps qui s'essouffle et que des papillons dévorent dans la rage du refroidir. Dis-moi que les cheveux que je perds le matin reformeront des racines ailleurs. Dis-moi que tu dormiras contre moi, que je pourrai rester sans parler. Dis-moi encore pour la paresse, pour le pain, dis-moi aussi pour les villes et les routes. Quant à la ténèbre, ce n'est rien d'autre que la lenteur de la lumière qui traverse l'espace. Goutte perpétuelle dans la bouche du temps. La lave de Pompéi a-t-elle emprisonné des fleurs? Je dis cela parce que je me demande si les pétales des fleurs résistent assez longtemps à l'embrasement. Est-ce que la pierre aura eu le temps de se solidifier avant que tout ne s'effrite et que les fleurs de Pompéi ne meurent sans laisser le souvenir de leur floraison? Vergiss mein nicht. N'oublie pas, oublie pas, oublie-moi, quand pour toi il s'agira de mourir. Presser le menton contre le cou, baisser la tête, surtout, allonge la nuque, resserre les épaules et affine tes omoplates. En cas de naufrage, la mer n'épargne que ceux qui aiment vraiment. Mais rien n'est moins sûr, tu sais. Parfois, il faut suspendre le flux de ce qui vient taper contre la face intérieure de nos désirs, ce qui fait se dilater les peaux, se tendre les ventres, parce que le temps est un nomade hirsute. Je refais chaque jour ce voyage en clandestin, aller compter les vagues dans les mollets, dans les cuisses, laisser durer la crampe qui s'étire le long du torse, des bras, du cou, jusqu'à ce que la décharge arrive en pleine cervelle, que le seuil de la douleur se déplace, le dos s'assimile à l'alentour qui s'efface dans ce bousculement des durées. Dis-moi, ton cri, lui aussi, émane-t-il de cette troisième corde vocale qui reste tapie et ne s'éveille que pour ces urgences-là, cette béance dans laquelle s'engouffrent les gens endeuillés, intouchables dans leur douleur et l'absence de l'autre, innommables sont ceux qui leur manquent, un pied dans la mort par mort, comme toi, comme moi, combien de pieds devrons-nous avoir sans risquer de tomber boitant de pieds que nous n'avons plus? Ce qui reste de toi, ombre, petite ombre qui progresse, mince filet de ténèbres qui grignote de l'intérieur les contours de ce toit qui amenuise, et tu n'es plus qu'un autre corps qui avance à côté de la lumière, comme si la nuit les pores de la peau s'ouvraient un à un, que tout s'étendait, vaste champ, prêt à être moissonné. Est-ce par ces petits orifices-là que rentrent les rêves, que le transpire se renverse? Est-ce ainsi qu'on récupère tous ces morceaux de vivre qu'on n'a pas vécu? Respire, blanc. Les chambres ne faisaient pas de bruit quand tu étais là. Je veux dire en cela que ce bourdonnement ne perçait pas jusqu'à moi. Je n'entendais pas le ronron du frigidaire, pas l'étrange grincement de la tuyauterie quand l'un robinet se referme, pas le claquement métallique dans le corps du radiateur, pas le cliquetis des aiguilles sur le cadran du réveil matin. J'entends tout ça maintenant. Un peu de silence glisse parfois le long des fenêtres et crisse dans le double vitrage. C'est un à côté qui s'allonge et dans lequel tu viens décortiquer les turgescences de mon corps, suspendu là où les cheveux se désensommeillent moins vite, où la nudité met du temps à émerger de dessous la nuit. Et un dernier, qui va cadrer avec le thème de notre colloque. Je sais pour ton gland et la fine veine violine juste en dessous de toi, montre-moi le rose ton téton, enlève ton pull, soulève-le des deux mains, tes petits seins retiennent le tissu comme s'il hésitait, juste une petite hésitation. Sais-tu qu'ils rebondissent, que tes mamelons pointent le fond d'air qui reste sans tempête, tempête, blanc tempête, et un livre de printemps. Je ne peux pas respirer, loin du bruit, loin de la ville. N'entends-tu pas son chant intérieur qui s'élève la nuit quand l'alentour devient opaque et que l'air tremble sous la vibration colorée du jour qui s'en va? Les pneus des voitures s'écrasent différemment sur le macadam parce que l'asphalte dort et n'absorbe plus la tonitruance des accélérations. La nuit s'inscrit en dehors de la vitesse et s'installe dans le gosier des marcheurs. Les noctambules posent un pied devant l'autre et diluent les étendues des strates stellaires qui disparaissent à chaque aurore. Tu me disais, l'amour reluit davantage encore dans l'aurore des jours où l'on a oublié de dormir. C'est que les pavots noirs traversent des nuits sans rêve et nous sommes ces corps ensevelis qui creusent un chemin vers la lumière. Viens, Je t'emmène, c'est ce que tu me disais. Viens, je t'emmène où les animaux viennent crier. Je ne savais pas que les animaux ont besoin de crier dans la nuit. Je ne savais pas que ce rugissement féroce est le pleur qui scinde les parois du parler. J'ai vu des animaux se vider de leurs cris au-dessus d'un trou creusé à même le sol de la forêt et je n'ai pas compris que tu faisais de même. Tu remplis des trous de ton cri triste et attends que le jour revienne enfin. Tu disais « Viens, je t'emmène à cet endroit de moi où personne n'a encore été. L'été, là où je m'habite, les murs sont en bois d'allumettes et les parois en papier cigarette. Une île indolente qui glisse vers le fond de l'océan. Fond blanc. Rappelle-toi cette histoire d'un homme et d'une femme qui habitaient de part et d'autre d'un détroit marin. La nuit, il nageait vers elle. La nuit, elle le guidait d'une lueur qu'elle allumait sur le toit de sa maison. Qui avait soufflé sur cette petite flamme? Qui porte la faute de lui noyé et d'elle happée par le vide? Et de nous, qui porte la faute? Merci.
Notre prochaine invitée, Biel Mesquida Amengual, est née à Castelló de la Plana, en Catalogne, en Espagne, et il vit à Palma, Majorque, en Catalogne aussi. J'écris, dit-il, comme un suscitateur de la langue, comme un chasseur de la langue, comme un voleur de la langue, comme un travailleur de la langue. J'aime passionnément la langue et j'adore traverser tous les langages pour faire une écriture vive, frissonnante, volcanique, phosphorescente, mercuriale, lyrique, étincelant de féerie, fanfare et orphéon, avec la chair et le souffle d'un corps humain écorché par les émotions de la pensée. Il lira ce soir « Lutte des classes » du livre « Le beau pays où les hommes désirent les hommes » publié par Édition 62. Biel Mesquida.
Bonsoir, bon vespre. Vous savez, je suis un écrivain catalan. J'écris en langue catalane. Dans l'État espagnol, il y a 4 langues, le basque, l'espagnol, le gallois et le catalan. Pendant l'époque de Franco, toute la dictature de Franco, l'espagnol c'était la seule langue officielle et toutes les autres langues étaient interdites. Dans ces 30 années de procès démocratique, le basque, le catalan et le gallois sont minoritaires et surtout minorisés encore par l'espagnol. Comme ici, chez vous, le français est minorisé par l'anglais. Je vais lire 2 petits poèmes en catalan et vous pourrez écouter la musique de la langue catalane et après un poème traduit en français. Per esqueixar espills et fou negada la pell del fots adolescents. Epitafi per un escultor. Com clavar dins el marbre l'impuls que enfonsa un home dins un altre home? Cambra. Els pèls del perrús que t'havia arrabassat creixien al fons de les meves ungles. Me revolcava dins el teu nom de mascle i entre les randes d'esperma que emboiraven el nostre bes. Era mentida. Rere els teus ulls, només trob el passadís empaparat en tots els matisos de la mà. Lutte de classe. C'était le printemps et il pleuvinait. La table, les livres ouverts, un bouquet de tracts piétinés. L'après-midi et les canifs sans mitrailleuse. Bien que vous ne le croyez pas, lorsqu'irrité des nuages, dégouline d'un argent maladif, comme ce rayon de sueur, si rance, sur le mire badigeonnée et sur le regard. Le père au travail, la mère chez la tailleuse. Qui découvrira combien d'aiguilles d'horloge arrêtées je porte derrière mes lèvres? On a sonné, compliqué comme ça. En ouvrant la porte, m'asseyait cette vague à la peau brune et un frisson éblouissant de pluie. Pourrais-je dire ton nom, garçon de coiffé, qui te versait tout entier avec une démangeaison inconsciente dès que se sont heurtés nos yeux? Quand je prenais l'osier du panier plein de vivres, chaque doigt cherchait son homologue dans un air de faiblesse au genou. Tandis que nous avons vidé chaque objet, mes veines éclataient et je devinais les battements déchaînés entre tes cises timides et frisées. Je ne savais ni les distances, ni les tremblements, ni ma main droite et ta main gauche qui, en prenant une orange réciproque, reste longtemps immobile. Ensuite, nous nous sommes enfouis. Je déboutonnais, j'abîmais les rayures de cette blouse de garçon livreur. T'y cherchais, nerveux et violente, mon nid sous la braguette. Nous nous sommes arrachés les vêtements avec dents et loupes. Nous flottions rattrapés dans le miroir du couloir où ma langue courait sur le virage de chacun de tes muscles, caressait les lignes dures de ta longueur, plongée au centre de la circonférence bref et obscure, faisait des colliers compliqués, interminables, incrustés au cou. Et elle goûtait la physionomie sombre clouée de baisers. Tes mouvements félins dégageaient une brune métallique et incandescente, tandis qu'ils effleuraient le poil de l'entrejambe. L'entaille rose de ta bouche engloutissait le testicule. Tu ruinais le nombril entre ivoire et langue. Le duvet léger de tes pommettes frôlait le mamelon, s'y enfonçait. L'écume de ta salive démolit le sphincter qui s'y noie sans même un cri. Tu étais une créature, créature farouche, jouant avec mes fesses, les mordantes, tandis que je m'agenouillais, déjà pressé et obligé par ton malaise et par ce désir de te plonger dans le beau trou de mon anus. Nous enjolions le temps avec la senteur d'un parfum censuré. Le gland dur de ta verge, extrêmement tendre, fouettait mon échine et tes ongles dessinaient des tremblements sur ma ceinture. Tu me serrais en mettant ton poing entre les lèvres, tel un inédite Hermès de Prasitel, démolissante avec des vraies flambées des vieux meubles, vieux tableaux, vieilles habitudes, vieille morale, vieille famille, une poignée de salive au milieu du cul. Je tournais la tête et buvais ton sexe qui luisait taché de baisers. Nous étions au centre de la maison, face à la porte et aux parents qui arriveraient peut-être en ce moment-là. Tu m'as enculé. Un aiguillon de plaisir avance intensément et j'aurais pu mourir pour toujours dans la jeunesse de cette frise où tes mouvements et la position d'amour seraient l'éclat du plaisir qu'aucune érosion du ciel ni du temps ne sera capable d'effacer. Merci.
Née au Liban, où elle a passé son enfance, Nadine El-Taïf vit au Québec depuis 1980. Elle a choisi de lire ce soir un extrait de son dernier recueil publié aux éditions du Norrois en 2010 qui a pour titre « Ce que vous ne lirez pas ». En guise de présentation de sa voix, quelques vers tirés du même recueil. L'écriture m'a dit « Je suis » comme un air d'opéra, la Tosca, que tu écoutes à 5 heures de l'après-midi en sirotant un verre de rosée. Le temps m'a dit « Tu cherches à savoir qui je suis. Je suis le moment où tu décides de chercher les pistaches et les grains libanais dans les bols pour les manger. » Nadine.
Avez-vous déjà écrasé une fleur dans un cahier? Si oui, avez-vous remarqué comment elle imprime son cœur à travers les pages? Elle s'effeuille, laisse sa trace, page après page, jusqu'à ne plus laisser qu'un petit point d'âme. C'est ainsi que le corps disparaît au moment de la mort. L'âme monte au ciel. Quand le souffle rejoint le vent, les nuages, les plantes et tout le reste du vivant. Déchaîne-toi, vent. Souffle ta colère. Vent en dehors, vent en dedans. Te voilà, mouette, emmurée dans ton silence. Au moins toi, tu cries. Avale une fourmi. Devant mes yeux, moi, impuissante, j'assiste à la scène primitivement. Un arbre, devant moi, montre ses racines, indécemment. C'est une colère, c'est une tristesse. C'est une colère, c'est une tristesse. Une colère, une tristesse. Le carnaval des bestioles continue, incessamment. Secoue tes ailes et plonge. Ta tête, le bec en premier, 3 fois, jamais assez béni. Et toi, pigeon craintif, dis-moi bonjour au moins. Nous ne nous verrons qu'une fois. Je vois les gens passer, entrer, sortir, et la fourmilière s'activer, machinalement, comme des automates, des robots dans la ville. Affligés d'un mal qui pèse sur leurs épaules, malgré la beauté ou la musique de Bach, malgré la brise douce ou les feuilles tombantes, malgré la symphonie des couleurs que chante le Québec durant la saison d'automne, il y a le poids, la lourdeur du crime que nos enfants n'ont pas commis, que nous-mêmes n'avons pas commis, un mal qui n'a pas connu sa rédemption et qui pleure de siècle en siècle un pardon non exaucé en cette veille du Yom Kippour. Beyrouth scintille la nuit et rutile le jour. Elle avance dans la mer inexorablement. Ce monstre à 1000 têtes, toutes les religions réunies, qui s'entre-dévorent silencieusement. Quelle rancune étouffée gise sous les cendres, prête à jaillir des tombeaux. Séville. Une tour, une marche, une montée. Je la suis, une 30aine d'étages. Une pente, pas d'escalier. Là où passait le cheval et le muezzin, 5 fois pour crier sa prière. Une tour et des murs qui séparent les cultures. Entre la cathédrale somptueuse, tellement écrasante de catholicité, et la tour arabe, à l'écriture épurée. dans le vieux Séville, dans le Veracruz, oui, certains crimes pouvaient rester impunis. Le train quitte Séville, sur des siècles inassouvis de vengeance. Le retour sur le passé est terminé à présent. Le présent sera une suite de petites violences et de grandes douleurs. Les moments de paix trouvés dans le jardin, de jasmin, de cyprès, de bougainvilliers. Ces moments de fusion où l'art réussit à vaincre les haines raciales et où les grands de Tolède et ceux d'Arabie, quand juifs et musulmans et chrétiens brodent leurs efforts, ils trouvent un champ, une pierre, un nouveau conte à ciseler avec amour. Ils érigent l'Alcazar ou la Sal Mujere, comme la passion d'une rencontre qui traverse les haines, traverse le temps. Le temps m'a dit, tu cherches à savoir qui je suis? Je cherche les pistaches. C'est ça le temps. Mais encore, dit-il, à part ce luxe, qu'y a-t-il dans le temps? Il y a du temps, comme un mot rempli de lui-même, comme certains mots. Tel le vide, tel une rose, une rose, une rose.
Née à Foggia, dans la région des Pouilles, en Italie, Titi Folieri vit depuis plusieurs années à Florence. Or, elle a séjourné à quelques reprises au Québec, un pays qu'elle aime beaucoup, bien qu'elle le trouve par moments un peu froid. Écrire, dit-elle, comme nécessité intérieure pour dire, du centre de notre être, l'enchantement du cœur, les épiphanies, les instants d'une prise de conscience où l'on perçoit l'essence de ce que nous sommes en union avec tous les êtres vivants. Raconter des histoires en prose, en vers, en évoquant des lieux, des êtres, des émotions, des événements qui, se gravant dans notre mémoire, nous ont touchés. Le voyage à l'intérieur de la parole pour interroger le mystère de l'existence auquel nous sommes exposés dans la fragilité extrême de notre singulière unicité. Écrire reste un acte de liberté, un luxe improductif, la nécessité de restituer une vision du monde, tout en sachant que c'est un acte de résistance, d'affirmer une diversité à laquelle on ne peut renoncer et qui réclame le droit de s'exprimer. Titi Folieri lira trois textes, le premier Eros d'un recueil inédit, La ville aux bijoux, et trois autres, dont le dernier en italien, extrait de Topologia di un mandala.
Un mandala. Grazie. Alors, bonsoir à tout le monde. Et je commence par Eros, que j'écris avant cette invitation ici à Montréal. Tu viens et soulèves les habits, vent chaud du sud. Tu insinues baisers, caresses, promesses de plaisirs défendus, les souffles des paroles pour dévêtir encore. Loin de la douleur et des peines, dans les puits là-bas, la vie pulse rapide, cherche la nudité de l'âme. Ta vérité, la mienne, dans un miroir, reflet de nos désirs, nommer les creux, les plis, les ouvertures de nos corps, cette offrande de nous à l'autre, les dons de désirer encore l'union, le plaisir d'être incarné, de toucher la fragilité vulnérable, d'exposer la nudité extrême. Eros, à femme de contact, les souffles du vent du sud, porte tes paroles entre les draps. Moi, j'invente pour toi nouvelle Sherazade, paysage, passage, enlacement, des mains, des langues, des bras, secrets murmurés entre nous seuls, pour nous qui allons solitaires à la rencontre de l'incertitude du lendemain. Songe rapide. Voler ensemble, visiter l'espace aux mille images, ce ne fut pas un songe. Saisir ensemble la réalité d'une vérité, ce ne fut pas un songe. S'ouvrir l'un à l'autre sans limite, grande, grande, cette paix, la syntonie, ce ne fut pas un songe, cette unité ressentie, cette douceur infinie et cette force, encore force. Un pouvoir, notre empreinte parmi les eaux, les mouvements d'envergure rapide et lent, notre musique, cette certitude d'exister, c'est redécouvrir libre en vol. Ce n'y faut pas un songe. Nos polarités antagonistes épuisées, ensemble, ce n'y faut pas un songe. Et je vais lire un texte sur ma région, les Pouilles, s'appelle Rodi Garganico, ce n'est pas Rodi en Grèce. Rodi, que tu renfermes entre tes murs les lignes de la vie dans les mains de mes proches, je le savais. Que l'amour entre eux naquit près d'une maison rose, c'était la guerre, on me l'avait dit. Que cette langue de plage eût abrité mes premiers contacts avec la mer, je m'en souvenais. Mais que tes eaux puissent être encore aussi limpides, et que cet azur, avec sa délicatesse, peut ouvrir doucement la porte de la douleur secrète, de cela, je ne m'en doutais guère. Je croyais ne plus revoir l'insouciance et la simplicité d'autrefois. Autrefois, ils étaient vivants. À présent, plusieurs d'entre eux sont ensevelis. Ne plus les revoir, imagine, quel désespoir. Et leurs yeux t'ont aimé, langue des sables, et leurs âmes t'ont appartenu, terre d'orangers et d'oliviers, et leurs cœurs ont parcouru les saisons éphémères, vagues éternelles. Les destins se sont tressés entre les routes bariolées de tes paysages, et leurs pas ne résonnent plus entre les rouelles blanches et les escaliers et les jardins. Leur voix ne chante plus la joie d'y vivre malgré tout, mer d'azur. Tu as de nouveaux amants passagers. Mais tu sais, tu te tais sur ceux du temps passé, sur ceux d'autrefois, plusieurs ensevelis dans les cœurs des vivants. Et je termine avec un texte en italien, attiré toujours de Topologia di un mandala. Sine limite. Non si può dire. Non si può definire. Non si può sapere. Esiste? Dimensione? Spazio di estasi? Insieme e soli, qui e sempre ora, ovunque dimora, bianco su bianco. Non si può dire di più.
Notre prochaine invitée, l'écrivaine Danielle Fournier, est née à Montréal, ville qu'elle habite encore aujourd'hui. En réponse à ma question sur l'écriture, je retiens ces quelques lignes de la fin d'un beau texte qu'elle m'a fait parvenir et qui a pour titre « Une voix blanc-ciel m'habite ». Ce qui ne nous appartient plus. Le langage ne s'épuise aux nuages qu'il respire, ni ne se couvre de feuilles mortes. Non, le langage coïncide avec la voilure qui s'enlace au regard. Je ne me détourne pas du rien, ni du corps au souffle coupé, ni de l'impensé même si cela m'anéantit. Il s'agit d'une clarté sauvage, de celle qui traverse les mots et s'offre bleu, sans rassurer les mots ou les choses. Je ne suis pas en ruine. Je suis une étagère où les pétales de fleurs poussent, apaisées. Chacun des mots fait exister l'autre dans la pièce immense où seul le lit est défait. Du corps de la terre, le cri de tous ces siècles emmurés dans les villes en flammes, puis dans les matins d'hiver, le présent brûle, les présences inutiles. Danielle Fournier lira des extraits de son dernier recueil publié aux éditions de l'Hexagone en 2009, Effleuré de lumière. Danielle.
Merci Denise. Merci au comité organisateur de nous permettre, à nous d'abord, de nous être rencontrés hier soir, aujourd'hui et demain, et de nous permettre aussi de pouvoir partager nos textes avec vous, le public. Malheureusement, je ne pourrai ni lire en espagnol ni en italien, alors vous m'excuserez, je ne lirai qu'en français. Quel dommage! Somme toute, je vais commencer par la fin. Ce n'est ni facile ni cohérent. Une femme qui ne le sait pas, un homme qui n'y pense pas, déborde le fleuve. Ne mourrez pas pour que vous m'aimiez. Les échos. Je vous laisse vous approcher, partir. Retiens du vertige une sorte d'étourdissement. Vivre ne me calme plus, vous l'avez toujours su. Mes mains labourent, mes yeux peignent, mes seins, je n'en parle pas. Vous vous en souviendrez et voudrez vous en rappeler. Comme l'éblouissement, la rumeur des lettres à la manière de personne, jamais venue. Une écriture en creux, une nuit pleine de saisons tombées. En même temps, sur le béton armé. Ils posent leurs mains sur leurs hanches pour regarder par-dessus les montagnes, là où la ligne d'horizon se confond au grand soleil. Ils sont dans la chambre où le sang rend à la féminité ses odeurs de neige. Au carrefour, je tourne à droite et à droite, le même carrefour. À gauche, le même carrefour. Mon corps, je l'ai emprunté à quelqu'un, dans la rue, ne le reconnais pas, fuit les regards tranchés. Nous ne parlons pas la même langue. Nous avons perdu de vue qui nous étions, ce que nous aurions pu être. Je vous suis, vous ne me reconnaissez pas, devant moi hostile. Je ne guette rien. Nous habitons des univers dynamités. Nous nous ressemblons à un détail près. Les rues fuient en. Parfois, vous ne savez plus où vous êtes. je me coiffe de boue. Sans doute, nous aimons-nous, malgré la haine, ce passage obligé. Ils avancent à pas de loup dans la lumière mauve. Leurs pieds frôlent à peine la terre. Alors, le baiser. La langue lèche, le cou, les dents mordent délicatement, la tête s'incline, les yeux se ferment, ils se touchent sans pudeur, se découvrent, se laissent impatiemment prendre. Vulnérables aux variations du temps, la nuit, dans aucun jour. Mes rêves ne tiennent d'aucun sommeil et chaque jour, la profondeur du verglas, quand, derrière les paupières, revient Dieu, insaisissable dans sa trinité, ne sait que me souvenir et me souvenir. Quelquefois, il suffit d'un moment très bref, très court, d'un instant couleur chair. Ou l'été, l'hiver en juillet, par exemple, bonheur archaïque, le détachement des heures. Je ne rejoins personne, suspendu. Célèbre le violet du ciel et l'odeur de la terre mouillée, ce qui me permettra d'aller plus avant, ne tolère rien, ne veut pas partir, ni rester, vivre, si cela est possible. Le mot « écriture » constitue un rempart contre la folie et sa terreur. Sans doute ai-je été écorché par des mots de glace, des mots iceberg, quand la violence sourd depuis des gouffres immémoriaux. Abattu dans une bataille navale, ceux-ci crient vengeance, mordent. Le mot amour. Sur les feuilles et les fleurs, sur les branches vertes, des fleurs d'hibiscus et de mimosa, la terre humide collée aux doigts, j'ouvre le livre des odeurs, celui de la mer, ses écumes, longues lames fracassant cette fin de jour. Ils ne peuvent disparaître, ne le veulent pas, se meuvent avec lenteur et difficulté au seul désir par-delà l'Atlantique. Ils ne peuvent disparaître malgré le danger qu'ils courent dans la chambre, le lit habité qu'ils reconnaissent pour l'heure, la coulée de ce qui vient. Entre les cuisses, une main se glisse discrètement vers le rose de la chair, suit le mouvement lent des lèvres, langue mystérieuse, familière. M'efforce d'endiguer ce qui s'envole, autour de la bouche, des baisers confisqués sur les cils. Je parle chat, chien. J'écris chatte, chienne. Reconnais le péril, l'étranger en soi. Je dis à voix haute qu'exprimer quelque chose pourrait lui conserver sa forme première, enlever ce qui crée l'épouvante, exprimer quelque chose, des fragments désordonnés des souvenirs, épisodes antérieurs laissés sur la plage. Des pas invisibles. Déposés sur mes reins, des paroles étincelantes, couleur goutte d'eau. Je parle une langue inconnue, agenouillée, devant l'éternelle fatigue et les frissons du sol. S'étirent dans l'air, ils iront jusqu'à l'été. Est revenue l'odeur, avec elle la mémoire du sexe, celle des feuilles au jardin, car il y eut un jardin, le rêve d'un jardin avec un pommier et un poirier, des rosiers et des framboisiers, des campanules et un hortensia, bleu. Nous nous y sommes assises, seules et avec personne, le jour et le soir. Surtout en fin de journée au printemps, à l'hiver, ce jardin d'hiver vous permettait d'y sauter depuis la terrasse, puisque vous avez été un enfant avant d'être sept homme. Sauter, sauter et sauter jusqu'à ce que la fatigue vienne et rouge de froid et de sueur, vous vous précipitiez, sauter, sauter et sauter encore, entraînant à votre suite des rires bruyants. Je me souviens très bien, même si l'image reste collée. Je vois et j'entends vos cris de joie. Oui, la joie. Je suis en joie. Merci.
Née à Norwalk, au Connecticut, élevée à Chicago, notre prochaine invitée vit à Montréal depuis 30 ans. C'est par un texte en vers qui a pour titre « Communiqué » que Hugh Kieselton répond à la question de son rapport à l'écriture. « Tes assauts de verbiage lancés en bégayant, des circuits de télévision, la guerre bombarde l'essence de la radio. Des panneaux publicitaires ambulants indiquent ceci, oui, ceci. Les bois, les champs soudainement s'arrêtent, bloqués. Impératifs interminables qui brisent pensées et sentiments. Métro publie, métro publie, métro publie, métro publie. Horizon clignotant, bombe verbale qui implose la médiocrité. Mange celui-ci, conduit, aimé, acheté, chrome, nouvelle boîte. Maintenant, bataille de désin. Formation, nouvelles, propagande, réclame, propagande, nouvelles. L'autorité, mensonge ouvert, déroule un subtil matraquage d'images, hurle, jacassage de vérité qui s'envole au-dessus de l'air, terre, droit du sang. Main de voix humaine, ripostée. Hugh Kieselton lira ce soir deux poèmes, Urgence et les mains de la mer. Le premier a été publié dans l'anthologie Le dépanneur café par les éditions Adage en 2010. Le second est inédit et il le lira en anglais, sa langue d'écriture. Hugh Kieselton.
Merci Denise. Le premier poème est performatif. Urgence. Brisé. Brisé. Rompez. Rompez. Brisez les conventions. Rompez avec le passé. Rompez avec le futur. Brisez la vitre qui vous sépare. Brisez, passez, traversez, libérez. Brisez. Rampez. En cas d'urgence, cassez la vitre. À tous les passagers planétaires, attention, tous les passagers, ceci est un cas d'extrême urgence. Pour survivre, cassez la vitre et soulevez la barre pour dégager. Dégager. La sortie d'urgence automatique. Puis émerger. Émerger. Arrêtez le train immédiatement, descendez sur le remblai et sentez les arbres. Ne cueillez pas cette fleur, mais posez l'index et le pouce de chaque côté et soutenez-la. Rangez-vous sur le bord de la route, ouvrez la porte de la voiture vigoureusement et écartez-vous sur le champ. Marchez d'un pas lent et détendu et observez bien les petits cailloux. Accroupissez-vous et mettez-vous à genoux et frôlez les brins d'herbe avec la paume de votre main. Entrez dans le paysage que vous regardiez de la route. Si vous êtes accompagné d'une personne consentante et d'un temps propice, glissez vos mains sur le corps de l'autre, soupirez et léchez-lui la peau. S'il y a état d'urgence à la maison, à l'appartement ou au travail, sautez tout de suite et parlez à la première personne que vous rencontrez. Et surtout, dormez dehors autant que possible. Aussi, fermez rapidement tout appareil électrique. Déconnectez les sources de puissance. débrancher toute prise intérieure et extérieure, arrêter tout courant venant de la centrale. Les nœuds électriques encore branchés au système peuvent provoquer les explosions majeures, des feux, la dévastation ou des chocs électriques, même sur une chaise, qui conduisent à la mort. Éteignez toutes les machines et tendez la main pour sentir. Attention tous les spectateurs amateurs de vidéos, films, télévision et imprimés. Attention tous les récepteurs d'images. Vous venez d'atteindre le niveau maximum d'absorption. Les champs de formulation conceptuelle tombent présentement au-dessous du seuil de remplacement. Les commutateurs automatiques passent maintenant du mode créé au mode répété. Cinéadrénaline 1, cinéadrénaline 2. Ciné-adrénaline 3. Radio répétée, télé répétée, ciné répétée. Pour en sortir, enlevez les coussins, relevez les bras du fauteuil ou du divan et appuyez sur le bouton d'éjection rouge. Ouvrez le centre du volant de l'auto et appuyez sur le bouton d'éjection rouge. Soulevez la poignée du porte-document, la visière de la casquette ou le couvercle de la boîte à lunch et appuyez sur le bouton d'éjection rouge. Pour revenir dans le monde, revenir dans la peau, réactivez idées, sensations, sens, ciel, désert, océan, lumière, bleu vert. Courez, inhalez. Désirez l'action, soyez l'action, sans réaction, passez à l'action. Voyez, sentez, touchez, baisez ce qu'il y a au-delà de la vitre, de la brique, de l'écran de plastique, de l'acier, du vinyle, du satin, du processus du papier programmé pour la production du progrès. Chantez, criez, parlez, rien d'inapproprié. Rien de conventionnel, rien de correct, rien de souhaitable, de préférable, de planifié, d'anticipé, d'attendu, rien que d'être vivant.
Merci. Donc le deuxième poème, ça s'appelle « Wave Sand ». Moonlight spreads over incoming tide, and my fingers slide across your breasts, shifting beneath darkened waves of faces that break glistening across pale ridges. Sand trembles under tongues of warm salt foam, spread and recede over open thighs. Currents rush, covering, reach inward to the rising dunes, pulled back again, surge thrown upon wet shining that meets the gathering wave of inmost tide. Suspended, breaking forward, crashes, spray torn away and lifted on the night wind. Sand drifting under the returning stars.
Notre dernière invitée, Marie-Étienne, est née à Menton, dans le sud de la France. Elle vit aujourd'hui à Paris, sa ville d'élection, après avoir longtemps vécu en pays étranger. Dans « De l'inachèvement », elle écrit « Je découvre avec joie, tant pis, je me répète, que mes premières ébauches sont plus intéressantes que les écrits qui suivent. Grâce de l'inabouti. Comme si chaque fois je devais revenir au texte d'origine. » Écrire, enfin, le texte d'origine, garder ses manques, son tremblement, et en même temps qu'il cesse d'être un brouillon. Depuis 30 ans et plus, c'est ce que je recherche, la fluidité, l'incertitude du début et sa condensation dans de l'irrémédiable. Nécessité, absolument, de retourner à ce foyer premier qui contient un secret qui m'échappe sans cesse, qui me contient et me convient, comme lors d'un rêve. Un écrivain part en voyage vers la bibliothèque où il découvre, écrit, le texte qu'il médite, son texte à lui, qu'il n'a donc plus qu'à mettre ou à mener au jour. Marie-Étienne lira ce soir un extrait de L'Aigrette, le livre du livre des recels publié en janvier dernier chez Flammarion. Marie-Étienne.
C'est un honneur redoutable de terminer une si belle lecture. Alors, je vais en profiter pour dire tout d'abord que je suis très heureuse d'être au Québec. C'est la première fois que je viens. Et c'est très différent de rencontrer des écrivains du Québec à Paris et de les rencontrer ici. De même, ça c'est ma transition pour ce que je vais vous lire. C'est très difficile d'apprécier un art en dehors de son propre pays. Enfin, on y arrive, mais ça n'est pas la même chose. C'est ainsi que j'apprécie énormément l'art japonais, mais je l'ai d'abord connu à Paris, et quand je suis allée au Japon, c'était tout à fait différent et tellement plus merveilleux. Alors, le texte que je vais vous lire est inspiré d'une rencontre que j'ai faite au Japon, une rencontre avec un oiseau. Et ce texte est, disons, dédié au peuple japonais dont j'aime tellement l'art et qui souffre tant en ce moment. L'aigrette. Tu m'appelles l'aigrette, dit l'aigrette. Mais tu ignores que je suis l'oiseau qui vient de cette nuit là-bas, au cœur de la forêt. Ce n'est pas la noirceur, mais souvenir de la noirceur. Ce n'est pas la lumière, mais souvenir de la lumière qui entretient et remercie. J'ai regagné le fleuve, je m'y tiens à présent comme une pierre en plein midi, une prière sur son socle. Ô ciel, approche ta joue et sens un Dieu. Combien au fond d'un Dieu l'amour est long à être muselé. Approche et sens la terre comme un Dieu chaud à ton oreille. Toute journée trace son nombre dans mon lit, je le sais, il n'y aura aucun moyen d'empêcher l'abandon sur l'autel de famille. J'avance à pas comptés, une patte levée, l'autre tremblée dans l'eau, pareil à l'encre, je veux savoir ce qui se cache au fond de Katsura sous Togetsu. Cette nuit, je le sais, une rougeur au ciel précédera le jour comme le sang pénètre notre chair. Moins une couleur qu'un souffle qui guérit. Fermons les yeux. Il faut fermer les yeux pour guérir du voyage, étendre sur la chose qui empêche toute la neige sur la neige, la jardinière horizontale qui permet le retour y tracera ce que le cœur appelle ses délices, des mots moitié énigmes et moitié cendres. 5 heures, l'après-midi, je me remplis la bouche d'eau, je me mets sur la tête le poids de l'air et je me poste ici sans remuer jusqu'au soir. Une lanterne blanche, c'est moi. Je dis c'est moi, je suis une lanterne blanche. J'écris la ligne sous la ligne, photographie. J'écris avec mon bec sur une tombe abandonnée. J'ai envie de dormir, les yeux demi-fermés, je dis « Mais c'est mensonge, je n'aime pas le poisson-chat, je le regarde de côté en essayant de l'attraper à travers les remous. Je le salue comme une idée, j'essaie de l'attraper. Il est juste assez grand pour ma bouche. Il est encore vivant. Il est juste assez lourd et froid comme une idée pour que je tienne en vie, pêcher sans hameçon en regardant les hommes à tête de poulet ou de lapin avec des sacs pour se cacher et des chaussures à leur disposition.
C'était le Jardin des Mystères. Alors, j'ai quelques merci. Un très grand merci à David de nous avoir accompagnés toute la soirée, David Gaudreau, à Lingen, qui nous a fait cette lumière et ce son, à Éric Champagne qui nous a accueillis à l'entrée, et à Joanne Germain qui nous permet d'être ici, qui nous offre ce lieu et tous les services de façon si généreuse toujours. C'est comme l'âme de la maison. Et comme elle me demande de me vous faire un communiqué, de vous en lire des petits bouts. Je pense que je vais le faire avec un grand plaisir. Alors, il y aura une soirée, mercredi soir ici, avec « Veuillez signaler un poème ». Cette pièce, donc, de 7 musiciens contemporains, dont Éric Champagne, qui nous accueillait. 7 poètes, José Aclin, Thierry Dimanche, Kim Doré, René Gagnon, Tania Langlais, Bertrand Laverdure, et Yannick Renaud. Alors, c'est mercredi soir à 20h ici. Alors, les gens de l'extérieur qui seront encore ici, et vous tous et toutes. Merci à vous d'avoir été là. Merci aussi à nos lecteurs, tous et toutes. C'était magnifique. Merci.